This is how legends are made. Très heureux de vous retrouver une dernière fois pour votre talk 100% foot. Et oui, après, c'est la pause estivale. D'ores et déjà, un immense merci pour votre participation tout au long de la saison. Merci pour vos messages, merci pour vos questions, vos suggestions et tous les partages depuis le premier jusqu'au dernier épisode de cette saison. Bienvenue sur Bluezoom, sur YouTube. Salut à ceux qui nous écoutent en podcast. J'espère que vous êtes en forme. Voici le programme de ce dimanche 31 mai. Le PSG est champion d'Europe. Samedi soir, le club français a réussi un back-to-back en gagnant une deuxième Champions League consécutive. On reviendra sur ce sacre spécial. On vous demandera aussi qui est votre MVP de la finale. On vous proposera nos coups de cœur et nos déceptions. On fera aussi notre 11 idéal de la saison. Ce soir, c'est une émission spéciale. Pourquoi ? Parce que c'est la team match après match qui est là. Mes invités sont ceux qui ont construit cette émission avec moi. Ils sont là, Tiber, Steven, Jérémy. Salut les gars.
Salut.
Plaisir de vous avoir. Carlos Varela est en train de rentrer de Budapest, mais il nous a envoyé aussi du contenu. Donc on va passer 60 minutes assez sympa ensemble. Les gars, je vous ai demandé de venir avec un mot pour décrire, pour définir la finale de samedi soir, finale de Champions League qui se lance.
Moi, allez, j'y vais. Cadenassé.
Ouais, pas mal. Tiber.
Moi, mental.
Mental.
Fermé.
Fermé.
Là, c'est, okay. Là, c'est là, presque
êtes, décevant. Décevant.
Voilà. Décevant. Ouais. Décevant. Ouais, ouais, d'accord. Très bien. Vous savez quoi, je vous propose à vous aussi, chez vous, de nous envoyer sur le chat YouTube votre mot. Hein. Un seul mot pour définir la finale. On se refait juste le film. C'est Alain Rohrbach au commentaire avec Carlos Varela et puis on en discute après.
Paris pour se succéder à lui-même ou alors Arsenal qui est là pour écrire son histoire. C'est relativement chaud, mais il faisait nettement plus chaud avant-hier. Alors que là, Havertz va pouvoir se présenter tout seul face à Safonov. Havertz ferme l'angle, frappe et ouvre la marque. 1-0 pour Arsenal. Safonov qui se fait surprendre au premier poteau. Ses responsabilités, le ballon d'or. Ousmane Dembélé, contre-pied parfait. Le Paris Saint-Germain qui égalise cette finale. Qui n'a donc pas décidé de choisir son camp au moment où l'on vous parle. Et nous voilà rendus à une séance de tir au but. Gabriel face à Safonov, ne pas trembler. Et c'est au-dessus! Et le Paris Saint-Germain écrit sa légende, se succède à lui-même au terme d'une soirée épique, une soirée indécise et le sort est malheureux pour Arsenal.
Voilà, si vous étiez sur la Lune ou sur une autre planète, vous avez manqué cette finale qui était d'ailleurs sur Bluesport, évidemment, samedi soir. On a donné nos mots pour définir la finale. On commence à recevoir des mots sur le chat. On a mérité, par exemple. Donc, on imagine que c'est un fan d'Arsenal qui...
non, forcément.
Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous dans cette finale? Si vous reprenez, par exemple, les mots que vous avez choisis, qu'est-ce qui a fait la différence à la fin ?
La patience, pour moi, la patience. Parce que c'est vrai que le plan de jeu pour Arsenal, c'était clair. On savait qu'ils allaient, rencontrer peut-être la meilleure équipe actuellement en Europe. On savait que les Gunners allaient cadenasser le jeu. Là, ça a été encore plus le cas parce qu'il y a eu ce but très tôt dans la rencontre. Donc, il y a eu ce double rideau où, franchement, moi, je me suis vraiment ennuyé dans cette finale. Mais on sent que Paris a quand même passé un cap parce qu'ils n'ont pas paniqué. Ils ont continué à faire tourner cette équipe. Pour le deuxième mi-temps, on a vu que la qualité des Parisiens a fait que Arsenal s'est effondré.
Mais est-ce que... Moi, j'ai vraiment eu la sensation que sans ce pénalty, Paris n'aurait jamais, jamais réussi à marquer. Donc évidemment, il y a ce pénalty. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'histoire de ce match-là. Mais à aucun autre moment, j'avais la sensation, malgré presque... Il y a quand même presque 1000 passes au PSG, ouais, ouais. Et à 300 et quelques, un peu moins de 300 à Arsenal. C'est quand même dingue de se dire qu'à la fin, ça se joue au tir au but.
Ce qui est sûr, c'est que c'est le scénario qui est parfait pour les londoniens. Je pense que Arteta, dans son plan de jeu, a espéré en tout cas marquer tôt sur un but. Peut-être, alors j'attendais pas un compte favorable et puis un but où Havertz peut profiter de 40 mètres devant lui pour aller ajuster Safonov. Je pensais plus un coup de pied arrêté. Par contre, là, marqué si tôt dans la partie, Arsenal le fait très souvent, se regrouper derrière, défendre très solidaire en étant très compact, ça ils savent faire. Et il y avait tout qui parlait, entre guillemets, en faveur d'Arsenal. Par contre, on ne le saura jamais, mais Paris, finalement, même s'il se procurait très peu d'occasions, il y avait quand même deux, trois situations. Et puis, la fatigue peut-être aidant du côté d'Arsenal, il y aurait peut-être eu en fin de match aussi des possibilités de revenir. Mais...
Ouais, moi je rebondis sur ce que vous dites par rapport au scénario. C'est un scénario qui mentalement était dur pour le PSG. Mmh. Je veux dire, ils ont été très forts mentalement, je trouve, pour garder leur plan de jeu, pour ne pas paniquer. Tu as parlé de patience, c'est exactement ça. Ils sont restés dans leurs principes. Et ça a payé au final. Je crois que la séance de tir au but, surtout comme elle, souvenez-vous, comme elle débute. T'as Gonzalo Ramos, il doit attendre au moins 2 minutes, je crois,
avant de tirer. Juste,
et il est rentré, hein. Il n'est pas dans le match encore vraiment à fond. Il doit se mettre dedans. Et quand on a tous tiré des pénaltys, surtout toi, Steven, toi aussi,
moi,
je pense.
Moi, un peu moins.
Ouais, des importants, des moins importants. Moi, une saison, j'étais tireur de pénalty. J'ai tiré un pénalty où tu as eu, genre, mais tu as l'impression que c'est une éternité, genre 1 minute, parce que tu as l'arbitre qui fait le tour, qui va parler pour pas qu'il faut franchir la ligne avant de tirer. Bref.
Là, ça cogite. Hein.
Et ça cogite, et tu as le temps de cogiter. Gonzalo Ramos, paf, propre. Tous les Parisiens, propre. Nuno Mendes, c'est un arrêt, c'est un bel arrêt. Arsenal, mentalement, les deux joueurs qui loupent, ils ont un petit peu craqué quand même.
Mais
ils ont
en plus un petit de peu ça, craqué quand même.
C'est pas
ça,
cadré, quoi.
Je pense que Paris profite aussi du fait que dans l'exercice, c'était du 5 sur 5 sous Luis Enrique. Il y a eu Flamengo, il y a eu Liverpool, il y a eu Marseille en coupe notamment. Ils n'ont jamais perdu une séance de tir au but, quel que soit le gardien, que ce soit avec Safonov, avec Donnarumma, avec Chevalier aussi. Et je pense que là, dans cet exercice-là, même si les organismes étaient très, très fatigués...
Ils ont des certitudes.
Ils ont des certitudes. Ils savent que même sur cet exercice-là, ils peuvent se reposer sur la qualité de leur tireur, alors même que les deux préposés au pénalty, Dembélé et Vitinha, ils n'étaient pas là.
Et pour moi, la finale, Arsenal, ils la perdent en première mi-temps, quand ils commencent à gagner du temps. Alors, je sais qu'on va peut-être en parler plus en détail après, mais pour moi, c'est là où ils perdent un petit peu d'influx et de concentration. Et quand on prend les pénaltys, comme vous l'avez très bien dit, on sent une sérénité côté parisien qu'il n'y a pas du côté d'Arsenal.
Mais alors, je rebondis, parlons-en de ça. Est-ce que quand on voit l'équipe, la qualité des joueurs qui sont sur le terrain, la qualité des joueurs qui sont sur le banc d'Arsenal, est-ce qu'on est en droit d'attendre autre chose que ce genre de match-là, commencer à perdre du temps en première mi-temps, cadenasser déjà aussi vite dans le match, même si ta défense, effectivement, c'est une forteresse, ils ont encaissé 7 buts sur l'ensemble de la campagne, ils n'ont pas perdu un seul match, mais purée, la qualité offensive qui est en
équipe, c'est
criminel.
Aussi. C'est le scénario, tu marques tôt, forcément,
non, mais attends,
même
inconsciemment. Attends, si. Sporting, à l'aller, Sporting, au retour, tellement de
t'as quand même inconsciemment, tu sais que tu joues contre une équipe exceptionnelle, tu marques le 1-0. Moi, je pense que même inconsciemment,
mais à ce point-là,
tu vas un petit peu.
Pas à ce point-là.
Mais mais ils étaient tranquilles en première mi-temps. Enfin, à ce première mi-temps, ils n'ont pas été arrangés. Hein. Le plan, il n'était pas si loin de marcher.
Tu joues contre le PSG, éventuellement, d'accord, mais il y a eu d'autres exemples durant cette campagne. Tu joues contre le Sporting, c'est pas le PSG,
c'est
et puis tu
PSG,
fais quand même 1-0,
attends,
1-0 sur un vieux
un
but
calibre,
dans le temps additionnel du match aller.
Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve dans une perspective de fan des Gunners aujourd'hui, si tu gagnes cette finale en faisant ce match-là, tu dis OK, on a été pragmatique, on a joué avec nos armes, entre guillemets. On s'en rappellera pas dans 10 ans qu'on a fait 50 passes en première mi-temps, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu perds, là, tu es exposé à la critique. Et tu parlais de la qualité des joueurs sur le banc, les 4 joueurs rentrants d'Arsenal, c'est 260 millions cet été. Ouais. Eze, Gyökeres, Zubimendi à 70 millions. Il y en a un quatrième que je n'ai pas en tête, mais le chat l'aura sûrement pour moi. C'est 260 millions dépensés, 260 millions... Alors, ça ne te garantit pas d'aller en finale de Champions League. Par contre, tu as quand même d'autres arguments à faire valoir, notamment si tu veux aller au bout.
Mais oui, tu as quand même des mecs comme Saka, comme Martinelli, c'est peut-être...
Martinelli
qui peut jouer.
Odegaard au milieu de terrain, qui est un joueur super technique. Je pense que beaucoup d'équipes rêveraient de le voir.
Madueke, bref, voilà, c'est ce genre de joueurs-là. Normalement, c'est des mecs qui doivent te permettre aussi de faire un certain saut de qualité. Même si, à Paris, derrière, c'est aussi costaud. Et il y a toute cette expérience de la finale de l'année passée, etc. Mais moi, j'attendais quand même... Je ne m'attendais pas à ce que Arteta change tout, évidemment. Non, non. Parce que tu as gagné ton titre en Première Ligue comme ça, à la fin.
Tu
as commencé la saison d'une façon et puis finalement, tu as un petit peu rajusté le tir. Et voilà. Mais je me dis, franchement, quitte à t'ouvrir, mais derrière, il y a tellement de possibilités d'aller marquer que ça peut aussi le faire. Après, il y a un enjeu, je comprends.
On l'a vu sur certaines actions aussi, quand ils commençaient un peu à trouver des décalages, à provoquer sur le côté, ben, ils se montraient dangereux. Il y a un penalty qui a... peut-être pas été sifflé, qui aurait pu être sifflé. Mais
est-ce que pour vous, Arsenal a joué comme un outsider, en fait ?
Comme une équipe qui a beaucoup de respect, qui craint un petit peu le PSG.
Et ça, on a joué au foot. Quand tu sens que ton adversaire, je vais oublier un terme, excuse-moi du terme, il se chie dessus, dessus. Mais ça te donne de la confiance, ça te donne de la force, puis on a senti cette sérénité parisienne. Alors je suis d'accord avec toi, il y a eu très peu d'occasions, et s'il n'y a pas le penalty, est-ce que le PSG égalise? Mais moi j'ai senti, sur ce que j'ai vu, une telle supériorité avec le ballon, dans la gestion de la pression, que je n'étais pas surpris au final que PSG...
Mais tu vois, si on fait un petit peu le fil de la saison des Gunners, ils jouent contre Bayern. Contre le Bayern, ça n'a pas parqué le bus comme ça. Alors, il y a des scénarios qui sont une physionomie qui est différente, mais je ne les ai jamais vus aussi défensifs contre le Bayern. Contre City en Première Ligue, City qui aime avoir le ballon, ils n'ont pas laissé le ballon au point d'avoir 25% de possession de balle sur l'ensemble du match. J'en attendais un petit peu plus quand même. Moi, je pense qu'à la place des fans des Gunners, il doit y avoir un petit peu de déception, de regret sur le visage que tu as montré sur cette finale.
Bon, malgré tout, ils ont été accueillis vraiment comme des rockstars là, à Londres. On n'imagine même pas ce que ça aurait pu être si Arsenal avait gagné. Donc 20 ans après, une nouvelle défaite en finale, c'était contre le Barça à Paris en 2006. Paris plus fort, on est d'accord pour le dire tous, Paris plus fort hier, c'est pour ça que Paris gagne. Il y a l'expérience de la saison dernière, mentalement, on en a parlé aussi. Cet avantage, effectivement, des séances de tir au but qui ont pratiquement toutes été remportées sous Luis Enrique. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette équipe qui, en fait, est quand même assez hallucinante?
Moi, parce
qu'ils ont refait une deuxième fois ce qu'ils ont fait la saison dernière. Ils commencent tout doux et ils finissent en force.
C'est encore plus fort. C'est encore plus fort de confirmer. C'est le plus dur. C'est le plus dur parce que tu as la décompression. Ils ont eu une première partie de saison quand même plus compliquée. Et de se remettre dedans et de ressortir des grosses performances, c'est exceptionnel. Après, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, pour moi, c'est le contre-pressing. Quand ils perdent le ballon avec Luis Enrique, mais c'est des morts de faim. Alors, il y a des grands joueurs de football, Vitinha, Neves, même Ruiz. C'est des grands joueurs de football. Mais au contre-pressing, les mecs, ils sont sur toi. Ils sont sur toi. Et c'est aussi à cause de ça qu'Arsenal n'a pas réussi à être meilleur avec le ballon, je pense. Donc ça, il ne faut pas le sous-estimer.
Et la stabilité par rapport à la dernière finale. Si je ne dis pas de bêtises, hormis Donnarumma qui est parti.
C'est le seul
qui l'a remplacé. Ouais, c'est les 10 mêmes joueurs. Donc il y a aussi cette expérience, cette stabilité qui fait que ça a passé. Ouais.
Et puis aussi un entraîneur qui est capable aussi de reconnaître ses erreurs, parce qu'il ne voulait plus de Donnarumma, il est allé chercher Chevalier en se disant il est meilleur que... Enfin, il peut nous apporter ce que finalement il n'a pas apporté, et puis de choisir de mettre Safonov, ça aussi c'est assez
Un choix très très fort, et je pense que si on écoute un petit peu les dernières interviews d'Ousmane Dembélé, qui est Ballon d'Or, qui a tout gagné maintenant en termes de trophée, qui dit que si tu cours pas, t'as beau être Ballon d'Or, tu finiras sur le banc. Bah voilà, ça en dit tout. Enfin, ça dit tout sur la mentalité qu'il a installée au PSG, qui est vraiment, à contrario des premières années sous QSI, qui est vraiment exceptionnelle en termes d'attitude, quoi. Ouais. Et on parlait aussi Tiber disait que c'est encore plus dur de confirmer. Je le rejoins complètement, d'autant plus que la saison passée, Paris, ils font 65 matchs. Et leur saison, elle se termine le 13 juillet avec cette finale en Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. Et un mois plus tard, ils réenclenchent contre cette Super Coupe face à Tottenham. Donc, très peu de repos, très peu de ressources mentales aussi. Et tout de suite, il faut se remettre dedans. Et malgré une première partie de saison en Dante où on se disait « Ouf, ça va être compliqué de passer », au final, la qualité et puis l'esprit de corps aussi a fait la diff.
Ouais. On me demande, on va le faire, parce que en fait, tout le monde parle de ça depuis hier soir, quoi. Kylian Mbappé est parti, on en a parlé l'année passée. Kylian Mbappé est parti, ça fait deux fois. Donc c'est vrai que je n'avais pas forcément prévu de parler de cette thématique-là, parce qu'en fait, ça peut aussi être un hasard. Ça peut ne pas l'être du tout aussi, parce que Luis Enrique avait dit on sera meilleur sans lui parce qu'on jouera en équipe. Résultat, Kylian Mbappé, depuis qu'il est à Madrid, il y a ça, quoi, zéro. Et puis Paris a gagné.
Il y a une super coupe d'Europe.
Oui, mais
c'est pas un trophée majeur.
Voilà, exactement. Les supporters, avant le début de la saison, ils te disent que c'est pas un trophée majeur. Et puis à la fin de la saison, quand tu n'as rien gagné, ils disent oui, mais bon, on a quand même gagné la super coupe d'Europe. Donc,
non, mais tu as raison. C'est pas un trophée majeur et c'est pas sur ça qu'il va se consoler.
Ouais. On peut passer à la suite. On a parlé de la team match après match, évidemment. Tiber, Steven et Jérémy sont là. On vous a dit que Carlos Varela, il fait aussi partie de cette team, évidemment. Il était au match hier soir à Budapest. Regardez, il avait aussi envie de nous parler. Il nous a envoyé cette petite vidéo.
Voilà, on vient de sortir du match où il y avait beaucoup de monde, les déçus, les heureux. Je vais juste prendre le temps de dire mon MVP, qui est pour moi Désiré Doué, qui a été un poste très très actif offensivement, qui a défendu très intelligemment. Donc il a toujours été disponible, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Il a évité pas mal de fautes bêtes pour éviter des balles arrêtées d'Arsenal. Et je trouve que voilà, l'un dans l'autre, jusqu'à son pénalty lucidement tiré. Je pense qu'il a même fait un pas en avant dans sa maturité et sa carrière. Lors de ce rendez-vous, ce n'était pas donné d'avance. Donc pour moi, le MVP, c'est Désiré Doué.
Le MVP de Carlos Varela, vous l'avez compris, c'est donc Désiré Doué. Moi, j'ai envie de mettre en exergue João Neves. Ouais. J'en parlais ce matin. Ah, Jérémy me serre la main. J'en parlais ce matin, un double cappuccino avec les gens au café sur la terrasse. João Neves, est-ce que ce n'est pas le joueur le plus sous-coté qui soit, parce que tu as Vitinha, parce que tu as Hakimi, parce que tu as plein d'autres joueurs dans ce PSG, mais quel joueur.
Mais extraordinaire, puis ils sont assez complémentaires, hein, tous ceux-là au milieu. Moi, je mets Kvara, parce qu'une nouvelle fois dans l'attitude, une nouvelle fois offensivement décisif sur ce penalty, il est hyper malin, c'est un grand footballeur, c'est un grand joueur d'équipe. Moi, je mets Kvara.
Sur la finale ?
Sur la finale. Ouais. Ouais. Même si ça n'a pas été du grand Kvara.
Ça a été dur parce qu'il y avait tout le temps deux joueurs sur lui. Ils sortaient tout le temps à deux.
Ils sont très bien défendus.
Moi, je peux vivre avec ça. Excuse-moi, Steve. Je peux vivre avec ça. Après, Kvara sort à la 70e ou 75e sur un match à 120 minutes. J'ai envie de mettre en relief la prestation XXL de João Neves parce que je crois que l'UEFA a décerné ce prix-là à Vitinha. Mais quand tous les joueurs parisiens avaient des crampes, quand tout le monde était en difficulté physiquement, lui, c'était la mobilette à mi-terrain qui récupérait des ballons, qui avait le même volume de jeu, sans perdre en lucidité, en qualité technique. Je suis d'accord avec toi, on a plus tendance à mettre en lumière Vitinha parce que c'est lui le chef d'orchestre, disons-le. Par contre, João Neves, il fait tout bien. Donc, moi, je l'aurais mis pour le match de hier.
Ouais, mais je peux que vous suivre. Il a tellement été bon. Et moi, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que on en parle dans le foot actuel. On veut que des grands gabarits, des joueurs puissants qui vont. Là, t'as deux petits d'un mètre 70, Vitinha et João Neves, qui font la pluie et le beau temps. Et alors, ok, il y a Ruiz qui est derrière, qui
surtout le beau temps. Régule. Quand même.
Surtout le beau temps. C'est temps. Non, mais moi, ça me fait plaisir de voir des petits gabarits qui jouent au football, des footballeurs.
Tu mesures combien, toi?
Je suis un peu plus grand, quand même. Ouais. Hein, moi, j'ai les semelles qui rapides de 3 cm. Non, mais voilà, on parle de football avec ces deux joueurs. Ouais. C'est des petits gabarits qui n'ont pas peur de prendre le ballon, de se retourner et de créer du jeu. Ouais. Ce n'est pas que des 8 box-to-box qui cassent le jeu. Et moi, quand je vois des joueurs comme ça qui font gagner leurs équipes, ça me fait plaisir.
Un petit mot sur l'entrée de Barcola que j'ai bien aimé. J'ai trouvé intéressant comme entrée. Des fois, j'aimerais bien le voir un peu plus. Mais lui, il manque de régularité dans ses prestations, même des fois dans le même match. Mais hier, son entrée, moi, je la trouve positive.
Mais c'est le joueur parfait justement pour quand les défenses sont fatiguées, qu'elles laissent un petit peu d'espace. Parce que Arsenal s'est un petit peu ouvert dès que Paris a égalisé quand même. Et il y a eu quand même 2-3 transitions où Barcola a fait valoir ses qualités de vitesse, notamment contre Saliba qui était un petit peu fatigué. Il lui manque encore juste cette efficacité, tueur que Kvara a, que Doué a aussi dans les grands rendez-vous, que Dembélé a acquis aussi au fil des années. Barcola, il est un petit peu en dessous pour l'instant entre les quatre mousquetaires par rapport à ça. Ce manque d'efficacité, par contre, en termes de vitesse de pointe, il est injouable. Quoi.
Il fait partie justement du succès du PSG parce que lui, c'est le genre de joueur, tu le fais entrer à la 60e, ouais. il va pas être... il va être déçu de ne pas jouer titulaire, mais c'est le complément parfait d'un Désiré Doué ou d'un Kouara lorsqu'ils sont fatigués. Mm-hmm. C'est ce qu'il n'y avait pas il y a deux ou trois saisons avant où tu avais des joueurs qui faisaient la tête d'être sur le banc ou un Ramos devant qui rentre, qui va faire ce qu'il a à faire. Ouais. Et puis c'est ce qui fait que cette union crée un PSG inarrêtable.
Idem pour Zaïre Emery, qui pour moi était un des, allez, je dirais sur la saison complète, un des trois meilleurs Parisiens. Balotté à droite lorsqu'Hakimi était blessé. Milieu de terrain, vraiment, il a passé un step exceptionnel sa saison, vraiment en termes de qualité, de régularité, alors que la saison passée était très très compliquée. Et le fait qu'ils ne le mettent pas dans un match comme ça, titulaire, alors que c'est celui qui a accumulé le plus de minutes dans l'effectif.
C'est dur.
Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a relevé en conférence de presse. Il a loué justement son comportement parce qu'il n'y a eu aucun mot plus haut que l'autre. Et il est rentré comme un patron.
Il est bon aussi, Enrique. Mmh. Je trouve qu'il a aussi, lui, franchi un step dans la com. Vraiment. C'est sur ses relations avec la presse aussi. Alors, les résultats, bien sûr, ça aide. Mais je trouve qu'il était beaucoup plus ouvert avec les journalistes où, au début, il était très fermé. Il fait l'effort de parler français.
Tu vois,
c'est hyper important aussi, je trouve. Il met tout le temps en avant les remplaçants. Gonzalo Ramos aussi, il le cite souvent. C'est super important. Quand t'es pas impliqué à 100% dans les titulaires, mais t'es heureux que le coach te cite et montre de la considération pour toi.
Il a laissé un héritage incroyable à Barcelone et il est en train de laisser un héritage presque encore plus grand à Paris qu'à Barcelone, là où il a tout gagné. Avant de faire une petite pause, j'aimerais juste vous demander comment vous perfectionneriez encore l'effectif du PSG ou quel joueur, quel profil peut-être pour aller chercher une troisième Champions League la saison prochaine, parce que là, il faut quand même Voilà, il y a des joueurs qui, qui doivent encore avoir faim, il y a des joueurs qui doivent avoir peut-être quelqu'un qui arrive dans le rétro. Quel genre de profil?
Pour moi, il y a deux besoins actuellement. Après, on parle vraiment si on est exigeant et puis on fait vraiment la fine bouche. Il y a Marquinhos qui n'a pas été top toute la saison et qui est de 94, donc il a 32 ans et qui a commencé très jeune en pro. Donc Zabarnie était censé être ce joueur-là capable de le challenger. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'Ukrainien n'a pas donné satisfaction cette saison. Donc il faudrait, s'ils veulent aller sur le marché, recruter un latéral, un central droitier. Pour moi, il manque peut-être dans la rotation aussi une doublure à droite avec un gaucher qui est capable de jouer ailier droite pour rentrer faux pied.
Olysée.
Ouais, non, c'est injouable, mais
échec et mat, tu te recrutes.
Souvent, c'était Lee qui le faisait, ce rôle-là, en sortie de banc. Lee aura sûrement des aspirations. On sait qu'il est courtisé en Espagne, mais c'est pas encore. On parle de Diomandé, ça pourrait être un complément intéressant, disons-le comme ça.
Pour moi, je vais peut-être. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais un gardien.
Oui, un gardien. Ça c'est vrai.
Parce que Safonov a fait le job. Il n'était pas titulaire en début de saison. Chevalier a été décevant. Je pense qu'il ne va pas forcément rester au club. Mais on ne peut pas continuer à surfer sur une telle vague avec un gardien comme Safonov, qui pour moi reste un gardien limité. Parce que pour moi, un bon gardien, sur le but de Havertz en première mi-temps à la cinquième minute. Alors, je suis dur. Mais je ne sais pas, ce gardien, il m'inspire pas confiance.
Même contre le Bayern en demi.
C'était quand même un gardien.
Il a fait un gros match.
Moi, je trouve justement qu'il inspire confiance aux défenseurs. Il est super calme, il s'excite jamais.
Je crois qu'il était un sur-régime, mais je sais pas, il m'inspire pas confiance.
C'est un gardien qui n'était pas considéré la saison dernière quand Donnarumma était là. Et tout à coup,
il est sur le devant de la scène. Il est un peu sur-régime, mais moi, il me plaît pas ce gardien en fait.
On est là pour ça.
Il me plaît pas, je sais pas, son style de jeu fait que, je sais pas, il m'inspire pas confiance. J'espère qu'il ne nous écoute pas à son phone-off.
Je pense qu'il est devant la télé. Il a que ça à faire. Ouais.
Après le final, il est sur Blue.
Je dis manière pour
c'est bon. Attention à pas qu'il commente le chat.
Moi, peut-être. Écoute, j'ai vu qu'ils étaient sur peut-être Alvarez.
Ah.
Alors.
Ouais. Bon, vas-y.
Dans l'optique où t'as un Dembélé qui se blesse relativement souvent et que Gonzalo. Voilà. Moi, je trouve que ça ferait de la gueule.
Mais t'en as trop, là.
J'ai un nom, les gars. J'ai un nom. Et Régis, en régime, me le signale, je l'ai vu. Manzambi.
Ah, fabuleux, mais c'est génial. Ouais. Ah ouais,
profil polyvalent comme ça.
100%.
Allez, on signe.
Avec un coach comme Luis Enrique qui fait jouer les jeunes.
Ouais. Allez, match après match, le dernier épisode de la saison. Je vous sors juste un petit commentaire qui me fait bien rire. Dire qu'il y a 365 jours, le PSG avait zéro Ligue des Champions. C'est assez impressionnant. Je vous ai proposé de venir avec votre propre bilan de la saison. Un coup de cœur, une déception. Thibert, on commence par ton coup de cœur.
Alors, coup de cœur, j'ai mis Griezmann. Ouais. Antoine Griezmann, un joueur que j'adore. On a parlé des petits gabarits, en tout cas des gabarits modestes. C'est un joueur qui n'a pas eu sa chance vraiment en France, qui a dû s'exiler en Espagne pour percer. Et il a fait une carrière, on ne la présente plus. Une attitude, un style de jeu qui est pareil, un gars d'équipe. Moi, j'ai entendu des échos sur des joueurs qui ont joué avec lui, que c'est un mec exceptionnel. Tout ça font qu'après une belle saison en Ligue des Champions, c'était mon coup de cœur.
Plus de 800 matchs en Espagne entre la Real Sociedad, le Barça, l'Atleti. Ce que j'aime moi dans cette histoire, c'est justement ce que tu viens de dire en fait, cette histoire. Ce qu'elle montre, c'est que parfois on te refuse chez toi, mais si tu persévères, il y a aussi de la place ailleurs.
Ouais, en plus il est français, donc je pense qu'on connaît un peu ce qui est recherché dans les centres de formation en France. Lui, c'est pas du tout le style de joueur qu'on apprécie en France, mais il est parti en Espagne et là c'est son football. Et moi, je trouve vraiment super fort sa carrière, hormis ce qu'il a bien sûr fait en équipe de France, et c'est qu'il est parti au Barça. On l'a vraiment critiqué parce qu'il a un peu fait une mise en scène qui était vraiment insupportable.
Comment la prononciation
Toi, t'es la langue côté grenade, et puis toi, c'est plus un accent
d'Andalousie.
C'est un mélange de russe et d'espagnol. Et puis, il est revenu à l'Atlético, et c'était pas facile, parce qu'il fallait se refaire un nom, entre guillemets, et il a mis tout le monde d'accord, parce qu'il est tellement fort, et c'est une belle personne, et moi, enfin, je le connais pas personnellement, mais tu sais que c'est un bon mec, ça se voit.
T'as envie d'être pote avec lui.
Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer. C'est pas pour parler de moi, c'est plus pour parler de lui, mais je dis...
T'es toujours comme ça, tu parles de toi.
Je reconnais ce que dit Steven. C'est un mec tellement authentique. C'est un enfant. En fait, c'était un enfant. Il disait, je viens d'être papa. Et en fait, jusqu'à deux mois en arrière, j'aimais encore faire le zouave dans le jardin. Zouave, tiens, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je sors ça. Je crois que c'était pour éviter de dire...
Ça, c'est un terme de quarantenaire, ça.
Donc, tu devais le placer avant la mission.
Non, le con. Faire le con dans le jardin, c'était ses mots. Je faisais le con encore dans le jardin et de moi. Maintenant, je suis père. Et puis, en fait, d'avoir un enfant, je peux plus vraiment faire ça, mais j'aime tellement faire ça, j'aime tellement déconner, ces célébrations de jeux vidéo, ouais, tout ça, ouais. Et ben ça en fait quelqu'un de vraiment très très attachant.
Ouais, bah t'as dit le mot. Moi j'allais dire, il est ultra attachant, c'est quelqu'un, c'est une superstar, mais avec, avec la mentalité d'un porteur d'eau. D'ailleurs, c'est ce qu'il caractérisait aussi dans son jeu, hein, c'est... De par sa reconversion aussi à un moment en tant que presse numéro 8 en équipe de France, il n'a jamais rechigné, il n'a jamais eu d'état d'âme. Ses adieux en équipe de France sont un petit peu, ont été
différés, ouais, pas, hein.
Pas à la hauteur de son talent ni de son bilan, de son palmarès aussi. Je crois qu'on aime tous, hein, même du côté de ce côté de pays-là, les Romains, on n'aime pas trop les Français, en tout cas la plupart. Et lui, je crois qu'il fait un peu l'unanimité
quand même. Tout à fait. Ta déception, Thibert ?
Alors bon, j'ai mis Haaland parce que simplement sur les gros matchs. Alors il a marqué en phase de poule relativement souvent. Puis après, ça s'est un petit peu effrité sur les gros matchs. Avec les attentes qui accompagnent un joueur comme ça. Hein.
Oui,
pour moi, potentiel ballon d'or. Parce
c'est
que quand
même un mec qui a marqué près de 40 buts cette saison.
C'est pour ça que je le précise.
8 en 10 matchs de Champions League.
Mais tu retiendras qu'il n'a pas fait gagner son équipe sur les gros matchs.
Voilà,
il n'a pas eu la même efficacité.
C'est ce qui fait,
voilà, c'est ce qui fait ma petite déception.
Okay.
Voilà.
Steven, Alan
parce que, ouais, moi, j'aurais dit le Real Madrid. Mm-hmm. Voilà,
l'équipe.
Pas sur un joueur individuel. Je ne sais pas si la question était un joueur individuel. Moi, le Real Madrid, parce que c'est une équipe qui est habituée à gagner la Ligue des Champions. Et puis là, ça fait 2 saisons de suite qui... Ils ont, je crois, aucun trophée, hein, c'est ça, ou la Supercoupe.
Ouais.
Deuxième saison blanche. Voilà. Et si on revient sur Haaland, toi, ta déception, c'était Manchester City, globalement.
Moi, je rejoins Thibert sur ce qu'il a dit. Et moi, j'aurais voulu, en fait, une fin en Champions League un petit peu plus heureuse pour Guardiola. J'ai trouvé la campagne européenne un petit peu sans relief, avec une élimination contre le Real, alors que le Real est au plus bas, et puis que City connaît une très, très bonne passe en championnat. On y était d'ailleurs pour commenter ce match-là et on avait été très très déçus. Bon, il y avait Valverde aussi.
Je rajoute sans Mbappé, le Real.
Voilà, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est ça.
Même si je sais que tu es une de ces personnes qui le défend.
Oui, alors pas corps et âme, mais c'est vrai qu'il a des circonstances atténuantes.
Il faut qu'on en parle de Mbappé, non ? Il faut qu'on en parle quand même.
Ouais. Peut-être un petit mot sur le départ de Guardiola. J'aimerais juste quand même vous entendre sur ça. Il y a beaucoup de personnes, des jeunes enfants aussi, qui sont nés avec Pep Guardiola parce qu'il a fait 10 ans à Manchester United, à Manchester City. Oulala, pardon.
Attention à ce que tu dis.
Il est là et en fait, il part. Et en fait, le foot, c'est aussi des départs, c'est des adieux. C'est dur des fois de dire au revoir à des gens, de se séparer des gens comme ça.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il signe à City, il est dans un taxi, ou je crois
avec
c'est
le gamin,
avec le petit gamin qui lui dit « Ah, je sais que maintenant, on va tout gagner ». Et en fait, il a tout gagné. Ouais. Et on parle beaucoup de Sir Alex Ferguson avec ce qu'il a fait avec Manchester United. Mais pour moi, ce que Pep a fait à... Pep, c'est un pote. Hein.
Ouais, c'est bon.
T'as le droit, t'as le droit.
Ce que Guardiola a fait à
City. Tu manges avec lui après, c'est juste.
Ouais, il va venir pour les grillades.
Il regarde l'émission. Non, mais...
avec sa fun.
C'est vrai qu'il laisse un héritage que peut-être Sir Alex Ferguson n'a pas forcément laissé, parce que Sir Alex Ferguson, il laisse des titres, il laisse l'aura, il laisse le charisme. Oui, mais t'as pas
le jeu à côté.
Voilà, le jeu. Tout ce que Pep a emmené, parce que c'est aussi mon pote, il a aussi amené ces 10 ans. Il a transformé un peu la Première Ligue, plus que Alex.
Je suis d'accord avec ça. Et puis surtout, Manchester United était un plus grand club que Manchester City avant l'arrivée respectivement de Sir Alex et de Guardiola chez les Sky Blues.
On va aller sur ma déception, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous savez ce que je pourrais dire ?
La Juve.
Tu peux aller plus loin.
Attends, il y a du Donnarumma.
Non, c'est le foot italien. C'est le Napoli, champion d'Italie, qui se fait sortir en phase de la Ligue. C'est l'Inter, finaliste la saison passée, qui se fait sortir par Bodø/Glimt, perdant à l'aller au retour. C'est la Juve qui s'en barrage contre Galatasaray, qui a pris un 5-2 à l'aller. C'est l'Atalanta giflé en 8e par le Bayern. 10 buts encaissés en 2 matchs. Et puis, c'est encore une fois le miroir de l'équipe nationale qui ne va pas à la Coupe du Monde pour la 3e fois consécutive. C'est pour moi encore une fois une saison catastrophique. Voilà, des dirigeants qui sont bloqués dans les années 2000. On va dans les stades aussi, on voit à quel point les stades sont modernes ailleurs et catastrophiques en Italie. Donc c'est ma déception.
Compréhensible, t'as tout dit, hein, je veux dire. Ils ont loupé le train aussi de la formation, des infrastructures, de mettre en avant un petit peu les jeunes. Il y a plein de talents dans ce pays qu'ils n'arrivent pas à leur faire confiance. S'ils peuvent choisir entre un vieux de 40 ans et un jeune qui arrive, ils vont choisir le vieux de 40 ans.
Oui, ils essayent de prendre que des joueurs gratuits. Ils ont choisi Bernardo Silva, par exemple, Modric, on ne va pas renommer tout ça. Mais moi je me disais, j'essayais de me remémorer le foot en Italie, il y a 20 ans. Dans quel monde, il y a 20 ans, tu te faisais sortir par Bodø/Glimt. Ouais. En fait, tu allais avec ta troisième équipe jouer contre Bodø/Glimt. Non, mais j'exagère, mais ah ouais. Pour de vrai. Tu lisais dans la presse, il y avait un encadré qui disait « Oui, bon, bah, l'Inter, c'est Bodø/Glimt, ça va être vite fait. Puis... »
Juste à suivre, alors bah, on connaît quand même les joueurs parce qu'on bah, suit le foot international, mais quand tu parlais de l'AC Milan, de l'Inter, de la Juve, tu savais qu'à chaque poste, tu avais quasiment les meilleurs joueurs.
Tu avais des références, ouais.
Je peux plus te citer, moi, l'équipe de la Juve d'il y a 15 ans ouais, que l'équipe de la Juve maintenant. Et l'équipe ouais, d'Italie, c'est pareil.
Pareil, ouais. Tu regardes l'hymne national, tu sais pas qui c'est, les mecs.
Mais ouais, tu sais que tu as Chiesa qui est un bon petit joueur, mais c'est
non, il joue plus. Chiesa, il a Chiesa, il a plus joué depuis. L'euro depuis le dernier euro.
Tu vois, avant, tu avais en concurrence, tu avais Del Piero et Totti pour le poste ouais, de numéro 10. Donc ça veut tout dire. Ouais, c'est... Il y a du retard en Italie.
Jérémy, ton coup de cœur ?
Moi, c'est le match aller PSG Bayern. Vous me connaissez, moi, je bouffe du foot tout le temps. Je regarde une centaine de matchs, peut-être par année.
Tu connais un peu les joueurs, tout ça ?
Je connais un petit peu. Et parmi toute la panoplie de matchs que je regarde durant l'année, mais moi, j'ai jamais vécu ça, jamais vu ça en termes de qualité, en termes de fluidité, en termes de duel, d'excellence même, disons-le, que cette manche aller au Parc. Comme on en a déjà parlé, certains mettront en avant le fait que bah il y a des défenses camembert, fromage avec 9 buts encaissés, mais quand le niveau intrinsèque des joueurs offensifs notamment est tellement fort, il faut savoir mettre du crédit aussi sur les animations offensives de ces deux équipes-là, et pas seulement le PSG dont on a beaucoup parlé, mais aussi le Bayern qui a été exceptionnel cette saison. Ça aurait pu pencher du côté du Bayern, même si je pense que sur la longueur, le PSG n'a pas volé sa qualification. Et moi, je me suis délecté de ce match aller-là. On avait la chance d'être ici en plateau. Et ça arrive pas tout le temps. C'est vraiment un match tous les 2-3 ans où vraiment on est en extase. Et pour nous, les fans de foot, comme pour ceux qui sont dans le chat qui adorent aussi, qu'on aime le PSG ou pas, qu'on aime le Bayern ou pas, il faut savoir relever la qualité de ces mecs-là parce que nous, on a été joueurs, mais on faisait pas le même sport, quoi. Il faut être honnête. Hein.
Ouais. Le plus beau match de la saison, Steven ?
Ouais, puis même des.
Ah, mais moi, c'est des 10 dernières années, ouais, je dirais. Ce vraiment. Match-là. À ce niveau-là.
En termes de qualité technique.
Ouais. Ouais. Surtout sur l'enjeu qu'il y a et tout.
Je t'en apnais tout le match parce que tu sentais que toutes les deux minutes, il pouvait se passer quelque chose. Et ouais. J'ai pas souvenir d'avoir. Moi, je vais être honnête, j'ai de la peine à suivre un match de 90 minutes, à part quand je suis en plateau parce qu'on est obligé de
rester. J'aime la transparence. Steven, tu veux toujours bosser ici l'année prochaine. C'est bien ça.
Non, mais à la maison, je vais toujours faire un ou deux trucs quand je suis devant la télé parce que voilà.
Tu veux vite aller au frigo peut-être servir un.
Mais ça ne vous dérange pas. J'adore. C'est ça qu'il y a un consultant en plus. Non, mais moi, honnêtement, j'ai de la peine des fois à rester concentré à suivre un match de 90 minutes. Et là, ce match-là, il est passé en 5 minutes. Ouais. Et je n'ai pas souvenir d'avoir pris autant de plaisir à regarder un match de foot. Ouais.
Exceptionnel. On se souviendra, je pense, tous où on était ce soir-là. Toi, donc en plateau avec André Binotto.
Exact.
Ouais, Thibert.
À la maison.
Et Steven, il était au frigo entre le frigo et la cuisine.
Ouais, en train de coucher les enfants.
Bon, en tout cas, mon coup de cœur pour moi, c'est vraiment les matchs émotions. C'est tous les buts, c'est tous les renversements de situation. Cette saison qui, pour moi, restera vraiment gravée pour son côté imprévisible, les surprises, la qualité de certains matchs et de certains joueurs. Et je vous propose d'ailleurs qu'on se refasse quelques moments clés, quelques très, très beaux moments de cette saison avec les commentaires originaux. On écoute ça.
Gévrova qui peut peut-être jouer sur le côté droit avec le ballon demandé par Joao Mario. Il va arriver directement vers Vlahovic, complètement excentré. Vlahovic encore qui va donner ce ballon. 4 partout, Loïc Kelly.
Le doublement de Björkan, Rogge qui enchaîne, Rogge la frappe d'Rogge.
Il faut évidemment ce but hein, qui peut changer le cours de l'histoire de cette phase de la Ligue. Trobin, exceptionnel. Qui va devoir donner en retrait. Il n'y a plus de vitesse. C'est mort, il n'y a plus de vitesse. Mais il y a peut-être de la classe. Oui, il y a de la classe. Il y a de la classe. Il y a cette balle par-dessus. Et il y a le triplé de Federico Valverde.
Et peut-être un surnombre sur la dernière, une des dernières actions du match. Hakimi en direction de Kvaratskhelia. 94e minute. Doublé du Géorgien.
Qui danse sur ce ballon, qui va envoyer Lucho Díaz. 89e minute, El Cafetero.
Doué, appel de Dembélé sur le côté, il est servi. Dembélé face à Upamecano, Dembélé la frappe.
Oh là 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 là.
C'est le 5-2 pour le PSG. Le match est peut-être complètement en train de tourner avec Ousmane Dembélé, le tir au premier poteau un peu à la Kylian Mbappé finalement. 59e minute, 5-2. Et Kane dans le rond central. Appel par-dessus de Luis Diaz. Marquinhos qui va pas pouvoir faire faute là-dessus. Luis Diaz, c'est magnifique.
Oh là là.
Et quelle qualité technique on a sur ce terrain, Guillaume. C'est juste exceptionnel.
Et c'était cadeau. On a Rock Snake qui nous dit là dans le chat qu'en revoyant ces images, il se dit que c'est tout simplement sans doute la plus belle Champions League depuis longtemps.
Belle édition, c'est possible.
Ouais, très très belle édition. Ah ouais. Vous aussi. Hein,
Revois ça, mais t'as des étoiles dans les yeux. C'est fabuleux ce qu'on a vécu. Le gardien, non mais il y a eu des scénarios de folie. C'était génial.
Moi j'ai beaucoup aimé l'édition aussi où le Real va au bout avec un Benzema de folie ou avec un Real qui effaçait des scénarios à chaque fois où ils étaient en retard. Oui, par quel bus aussi par moment. Et puis, c'était quoi, 2020
Sous Ancelotti.
C'était avant la venue de Mbappé. Hein.
Exact, exact. exact.
Ouais, on remet une petite couche, il faut.
Alors que je l'adore, moi.
Ça se voit.
Allez, on a encore le temps d'écouter un message de Carlos Varela en provenance de Budapest, parce que oui, il nous a envoyé une deuxième vidéo. On l'écoute.
Eh oui, la team, j'avais aussi envie de vous donner mon coup de cœur de cette saison Champions League qui va tout droit en Norvège avec cette belle équipe de Bodø Glimt qui a su exister dans cette compétition qui est soi-disant réservée aux grands, qui lance en même temps un beau message à d'autres pays de ce calibre qu'on peut exister. Et puis elle a été enthousiaste, elle a su souffrir ensemble quand il fallait souffrir, elle a marqué pas mal de buts, elle a déjoué quand même des tactiques de certains gros, ils ont éliminé l'Inter de Milan. Et je trouve que c'était un joli coup de fraîcheur dans cette compétition. Et voilà, bravo à Bodø Glimt. Et ma déception, c'est clairement Villarreal, qui n'a pas su, si ce n'est un match, reproduire ce qu'ils font dans la Liga. C'est le petit Barcelone dans beaucoup de matchs de la Liga. Et là, ils ont été complètement paralysés par la compétition. On verra l'année prochaine s'ils arrivent à être meilleurs parce qu'ils y retournent. Allez, salut la team.
Ouais, ils y retournent effectivement en Champions League. Et Steven, t'es même pas au courant, Villarreal était en Champions League cette saison. Ça montre à quel point cette équipe t'a marqué. Non, mais il le dit, ils n'ont vraiment pas été à la hauteur. Ils ont fait un très bon championnat, mais par contre, complètement éclaté en Champions League.
Comme tu l'as dit, ouais, complètement éclaté en Champions League.
C'est lequel ton match préféré de Villarreal? Ah,
tu l'as ou pas?
Ah, oui. Merci. On l'a jamais faite celle-là, surtout.
Pas mal, hein.
Bon, mais c'est vrai qu'il y a eu... On peut peut-être revenir un petit peu là-dessus, faire le parallèle. Donc, Villarreal, très bon en championnat, catastrophique en Champions League. Le Napoli, c'est pareil. Napoli finit deuxième du championnat d'Italie et en dehors des barragistes en Champions League. Comment on peut expliquer ça?
Moi, j'ai un peu de la peine un peu avec le style de jeu italien, avec le style de jeu pratiqué en Serie A, où ça manque de joueurs dans l'intensité qui sont capables de répondre contre des équipes des grands championnats européens, notamment les écuries anglaises. On joue avec beaucoup de joueurs expérimentés, c'est pas le cas de toutes les équipes, mais ça manque un petit peu de joueurs capables, aussi en un contre un, de créer des différences. On voit que les équipes qui vont au bout par le passé, c'est des ailiers percutants, c'est des mecs qui sont capables d'éliminer en un contre un. En Serie A, au final, c'est l'Inter qui gagne avec deux attaquants qui jouent sans ailier. Le meilleur joueur du championnat, c'est Di Marco qui est piston. Ouais. J'adore Di Marco, mais ça en dit long quand même finalement sur le style de jeu pratiqué.
Et Di Marco, si je peux me permettre, j'étais avec Andrea Binotto au stade, il a pas existé contre Bodø Glimt.
Ouais.
Il n'a pas existé.
Bah voilà.
Match nul.
C'est une preuve un petit peu quand même du déclassement du championnat italien. C'est pas nouveau, mais on en a encore la confirmation.
Ouais. Là, donc on retiendra que ce soir on tape sur Mbappé et sur le foot italien. Il y a Chris Lausanne. Vu que le foot européen ne s'arrête pas uniquement à la Champions League, c'est quoi vos avis sur l'Europa et sur la Conference League? J'ai vu Evan Guessan qui a gagné les deux petites coupes d'Europe dû à son prêt. Alors, faudrait qu'on fasse un deuxième match après match plus tard, et puis un troisième match après match encore plus tard. Mais oui, Evan Guessan. Avec Aston Villa et avec Crystal Palace qui a gagné donc les deux Coupes d'Europe. Moi, je vous propose qu'on continue parce qu'on a encore pas mal de choses à faire, à voir. Donc, on a parlé de Villarreal, on a reparlé un peu de ce foot italien. Bah, quand même, des autres jaunes, Bodø Glimt, Carlos le dit. Qui vous a le plus impressionné à Bodø Glimt? Il y avait Auge, il y avait eux aussi qui étaient... Ah tiens, c'était Steven, Steven, il ne savait pas que Bodø Glimt était aussi en Champions League.
Non, ça, je savais. De sortir... trois joueurs.
Non, mais ouais, c'est les deux qu'on retient, en fait.
Bien sûr.
C'est les deux qu'on retient. Est-ce que c'est des joueurs qu'on peut imaginer jouer dans un autre club que celui-ci
là, mais oui, mais là, ils ont été en vitrine. Ah ouais. Moi,
vraiment
pense qu'ils... Bah, moi, je pense qu'ils vont avoir quand même quelques œufs sur, la table, le club.
Clairement. Et puis, Hugo, c'est pas non plus un inconnu au bataillon. C'est un mec, quand même, qui a fait de la Serie A, qui était au Milan, qui est quand même catalogué super talent, qui a dû revenir au pays pour reprendre le fil de sa carrière. C'est un bon mélange, finalement, entre des jeunes joueurs qui sont très bien formés en Norvège. Norvège qui a une très, très belle génération, qui sera un peu...
Outsider,
un épouvantail, quand même, qui sera pas facile à jouer à la Coupe du Monde. Et des joueurs un peu... Ça va être dur. Et encore Patrick Berg, justement, un joueur expérimenté qui est revenu un peu chez lui et qui est capable d'entourer cette jeune garde.
Mais je confirme, c'est pas pour montrer que je suis le foot norvégien et que je m'y connais bien, mais c'est vrai que je suis beaucoup les équipes de jeunes, honnêtement. Et c'est vrai que les équipes norvégiennes sont souvent très difficiles à manier et ont souvent des individualités, notamment des ailiers percutants avec beaucoup de créativité. C'est vrai que la Norvège, comme un peu des fois le Danemark, les pays scandinaves, sortent de très très bons joueurs individuellement.
Ouais, mais on se réjouit de revoir, d'avoir un peu cette équipe un peu plus fraîche. Bah, Carlos, on a parlé dans sa vidéo, cette fraîcheur qu'amène un Bodø/Glimt, on l'a pas eu sur l'édition précédente, par exemple, ouais, si je me rappelle bien.
Complètement. Non, puis surtout, le nouveau format de la Ligue des Champions, il aurait tendance à laisser penser qu'il y a plus d'équipes, il y a plus de matchs, donc ça laisse la place aux plus petits, mais c'est pas vraiment le cas. Finalement, c'est comme par le passé, il y a quand même l'élite finalement qui est au rendez-vous parce qu'il y a plus de tours. Une équipe comme ça, normalement, elle peut passer l'écueil de barrage et après elle se fait éliminer. Là, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel, mais ça pourrait ne pas se reproduire chaque année malgré tout.
Rêvons un peu, Thun sera le beau 2 de la saison prochaine.
Oui, rêvons très grand.
Rêvons très grand.
Point commun.
Ils ne se prend pas en Coupe d'Europe.
Ils ne se prend pas en Coupe d'Europe.
Aucune Coupe d'Europe.
Bah, si, ils se qualifient déjà, point commun, ils ont un synthé, mais il fait moins froid. Voilà. Donc, ça s'arrête là, je pense.
Vous avez vraiment l'air d'y croire. Je crois qu'on va passer le sujet. On avait envie de choisir le MVP de la saison aussi. Ouais. Donc, c'est notre MVP. On s'est concerté.
Il y a un consensus là.
On était quand même sur. Alors, il y a eu du Kvara et il y a eu du Alizé. Il a fallu trancher. Ouais. Et on est parti sur Kvara. Voilà, peut-être aussi parce qu'il est allé jusqu'en finale et que bah, il a été exceptionnel quand même tout au long de la saison, Jérémy. Ouais, saison exceptionnelle. Aussi indispensable que Dembélé, que Hakimi.
Oui. Non, mais cette saison, lui, c'est le joueur fort du Paris Saint-Germain. Je ne veux pas dire que les autres autour de lui n'ont pas été étincelants, mais c'est celui qui les a sortis de situations périlleuses par moment. Je pense notamment à son entrée contre Chelsea où il est remplaçant, où il met un doublé pour... aborder le match retour à Stamford Bridge de façon tranquille. C'est décisif à tous les matchs à confrontation directe. Il a plus de contributions de buts que de matchs joués. C'est aussi un mec qui donne le temps en termes d'attitude, comme Dembélé d'ailleurs, hein, mais je pense que c'est vraiment lui qui a passé encore un step supplémentaire, sachant que la saison passée, il était arrivé à Noël. Là, vraiment une année complète. Monsieur Kvaratskhelia, c'est XXL, sa compagne de Champions.
Moi, il me rappelle, Robben, on savait toujours ce qu'il allait faire. Et puis il arrivait quand même toujours à marquer. En fait, là, son mouvement. Non, mais pas dans le mouvement. Mmh. On sait toujours qu'il va faire cette frappe enroulée.
Mais il est capable d'aller à gauche quand même. Hein. Il a un profil un peu plus complet.
Et je trouve qu'il est un petit peu plus altruiste aussi dans les combinaisons. Tu vois, typiquement hier, le 1-2, je ne sais pas si Robben, il avait vraiment l'esprit de combiner comme ça. Tu vois.
D'accord, alors je me tais.
Non, mais c'est juste la petite différence.
En fait,
je trouve plus connecté, je suis d'accord avec Tibert, plus connecté dans le jeu de son équipe que Robben dans ses grandes années où c'était plus un soliste qui faisait gagner l'équipe avec sa spéciale rentrée à l'intérieur, alors que Kvara, moi, il est quasiment en bipède, on dit, hein, pour les pieds, capable d'aller à gauche comme à droite, alors que Robben, c'était assez...
Défensivement,
pas le même ratio, pas le même rendu non plus. Quoi.
Ballon d'or, Kvara, c'est possible?
Non.
Non?
Ben non, parce qu'il est malheureusement pas géorgien et il fait pas la Coupe du Monde.
Ouais, malheureusement.
Et si on parle d'un ballon d'or, ben, ça va être au PSG, ça va être Dembélé. Parce que je pense qu'avec l'équipe de France, il va quand même faire un parcours intéressant. J'espère en tout cas pour lui. Mais malheureusement, Kvara est géorgien et il n'aura pas cette vitrine de la Coupe du Monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a l'année de la Coupe du Monde ou d'un Euro, on a tendance à oublier ce qui s'est passé il y a un mois et demi.
C'est vrai.
Et puis il suffit que l'équipe de France fasse un beau parcours, que Ousmane marque 3-4 buts.
Ça va se jouer avec Olysée. Hein.
Je retiens, c'est aussi ton pote. Tu l'appelles par son
prénom.
Donc Kvara, non, non plus, pas de ballon d'or, pas de ballon
non,
d'or.
Non, il paye le fait que la Géorgie n'est pas au mondial, mais sinon il serait prétendant, plus que prétendant. Bon. Ouais.
Et on aurait pu parler d'Olysée aussi, quand même, parce que saison exceptionnelle. Moi, je l'ai vu pour la première fois en vrai. On était ensemble. Moi, je l'ai vu pareil. À l'aller et au retour contre le Real. Je me suis régalé. Si un jour, vous pouvez aller au stade, voir un joueur jouer en vrai, bah, il faut aller voir, c'est Kvara, c'est Olise. Voilà. C'est un joueur spectaculaire.
En fait, alors j'ai vu Zizou jouer en vrai aussi. C'est pas le même profil vraiment, mais ça dégage la même facilité. Avec le ballon, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun stress avec le ballon. Tu as l'impression que le foot est facile, tu as l'impression que c'est facile d'éliminer un joueur. Pareil que Kvara, tu sais un petit peu ce qu'il va faire, ça passe toujours. Et puis tu as la vitesse. Tu as une vitesse qui est phénoménale sur les premiers appuis et même sur la longueur. Voilà, c'est un joueur, un jour, qui va prétendre ou qui risque de prétendre déjà, s'il fait une grande Coupe du Monde, déjà cette année, au Ballon d'Or.
Bémol quand même pour lui, si la France va au bout, c'est qu'il n'a pas le titre en Champions. Ouais. Et il y aura des prétendants en équipe de France qui auront en tout. Après, bon, là, on se projette un petit peu loin, hein, mais ça va être ce qui va peut-être pêcher en sa... Enfin, qui va faire ce qui va lui être en sa défaveur.
Si la France ne gagne pas la Coupe du Monde, du coup,
il est encore... Ouais, c'est dur à dire, hein, franchement. Après, si Lamine Yamal emmène l'Espagne au bout et puis qu'il est exceptionnel, pourquoi pas. Ouais. Il gagne la Liga, alors il ne va pas très loin, enfin pas assez loin, disons-le comme ça, en Champions. Mais je pense que, comme disait Thibert et comme disait aussi Steven, je crois que l'impression laissée sur la fin, je dirais presque qu'elle vaut double par rapport à ce qui s'est passé en mars ou en avril.
Le vainqueur de la Coupe du Monde, avec un joueur décisif, aura plus d'impact pour le Ballon d'Or que la Ligue des Champions, je pense, à mon avis. La Coupe du Monde reste quand même un niveau au-dessus. Et ça va débuter bientôt. Et je pense que la finale sera dans un mois. Et la Ligue des Champions était fin mai.
Bon, on a eu des exceptions. Hein. C'était quoi, 2010 ?
Messi
2010. Ouais, alors
Messi, il y en avait deux, trois.
On touche pas.
On touche, mais voilà. Ouais. Pour lui, c'est différent.
C'est un autre règlement qui s'applique.
Ouais, ouais.
Voilà,
Vitinha, on nous dit dans le chat. Vitinha, Ballon d'Or. Effectivement, s'il fait une belle Coupe du Monde avec le Portugal.
S'ils vont loin avec le Portugal, il a toutes ses chances.
Portugal a une très belle équipe, à part ça.
Pour moi, le meilleur milieu de terrain de la compétition, avec Bruno Fernandes qui s'ajoute à João Neves.
Les trois.
Sur le papier, c'est exceptionnel.
On se fait encore le 11 idéal, notre 11 idéal. Vous pouvez évidemment nous donner le vôtre ou nous donner votre avis à propos de notre 11 idéal dans le chat. Celui de l'UEFA vient tout juste de sortir, c'est pratiquement le même que le nôtre. Ils nous ont copié, ces vilains.
On n'est pas à côté de la plaque.
Non, on n'est pas à côté de la plaque. Eux, ils ont pratiquement ce 11-là. Nous, on a juste Hakimi à droite que eux n'ont pas. Mais autrement,
et Marquinhos aussi, je crois.
Et Marquinhos, exactement. Nous, on n'a pas de choix, effectivement. Oui. C'est, voilà, il y a beaucoup de PSG. Il y a beaucoup de Bayern, forcément, et voilà, un peu d'Arsenal là-dedans. Est-ce qu'on a été influencé par les demi-finales et la finale, ou est-ce qu'on aurait pu mettre un autre joueur là-dedans?
Je vais provoquer un peu.
Vas-y,
C'est bien. Mbappé, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, non?
Ouais.
Voilà. C'est un sport collectif.
Oui, mais on a tendance souvent... Là, je provoque un peu.
On l'a sur le banc. On l'a sur le banc.
Et oui, mais est-ce qu'individuellement... Alors, bien sûr, c'est un sport collectif. Je suis un peu dans la provoque, là. Mais on a souvent tendance à parler de stats dans le football actuel qui sont plus importantes que les trophées, souvent. Hein,
mais tu sais que même Haaland, il aurait, en termes de statistiques, si on parle de stats, c'était pas dégueulasse.
En termes de stats, il est au-dessus de Kane, non, cette saison Ligue des Champions.
Ouais. On l'a sur
en
le
fait, ils payent leur parcours, le parcours décevant de leur équipe.
Ouais, tout à fait. Voilà. Luis Enrique, Safonov, Saliba, Gordon, João Neves, Yamal, Fermin, Mbappé. Sur le banc avec Luis Enrique, on était obligé de le mentionner aussi. Meilleur coach de la saison.
Il n'y a pas le choix. Ça aurait été Compagnie ou lui, personnellement. Alors, sans faire offense à Arteta, le Bayern a dégagé pour moi plus d'emprise en fait sur ses adversaires en Champions que ce que l'a fait Arsenal. Mais je pense que là, quand on élit des équipes comme ça, c'est surtout les accomplissements individuels dans un cadre collectif qui doivent primer. Donc je comprends aussi que l'UEFA ait choisi... non, je comprends pas en fait. Marcos Llorente, latéral droit. Alors oui, il fallait peut-être représenter l'Atlético qui a fini dans le dernier carré. Mais Hakimi, c'est un but, cette passe décisive sur la compétition pour un latéral.
Ça n'existe pas, tu mets Llorente à la place de Hakimi.
Il fallait un représentant de l'Atlético. Ouais. On aurait pu donner non à personne. En fait.
Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit avec ça, je crois qu'on gagne la Ligue de l'Univers.
Là, il y a peut-être moyen.
Avec cette équipe-là, franchement, on est...
Pas besoin de coach, presque, non?
Ouais. Non, allez, on garde Lucho sur le banc. Je crois qu'on a fait le tour, les gars. Il nous reste un tout petit moment. Première saison de ce nouveau format dans le rétro. Que du bonheur avec vous, les gars. Merci beaucoup pour vos idées, pour vos propositions, certaines dingueries aussi que vous m'avez proposées de temps en temps. J'ai aimé chaque épisode, vraiment, avec tout ce que vous avez réussi à amener. Chez vous, vous avez aussi énormément aimé suivre cette saison. Vous avez adoré certains épisodes, notamment l'épisode avec Mauro Lustrinelli, je crois que c'était avec toi.
Ouais, c'était un grand moment. Franchement, personnellement, c'était aussi le meilleur match après match, aussi émotionnellement, parce qu'il dégage vraiment quelque chose, c'est un personnage. T'as envie, il t'embarque en fait. Même, je sais pas si tu te souviens, mais il nous a embarqué avec lui dans son histoire, dans sa passion. C'était un grand moment.
On va appeler les autres invités qui t'ont partagé le plateau pour leur dire qu'ils étaient mauvais.
Sans faire offense, évidemment, aux autres invités.
Meilleur match après match que celui de ce soir.
Celui de ce soir, il va être particulier. Si on pouvait être tout le temps les trois ou les quatre ou les cinq.
Non, mais c'est vrai qu'avec Mauro Lustrinelli, c'était vraiment très très intéressant. On rappelle qu'en plus, sa langue maternelle n'est pas le français. Il nous a vraiment captivé. Mais d'une façon assez exceptionnelle. Et ça vous a beaucoup plu aussi, à vous, chez vous, ceux qui avaient écouté en podcast ou qui avaient suivi ça sur Blue Zoom ou sur YouTube. Steven, j'ai le souvenir que tu avais beaucoup aimé la venue de Pablo Iglesias, si je ne me trompe pas.
Ouais, parce que moi, Pablo, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui. Je bois ses paroles, en fait. Alors voilà, c'est un expert du foot qui connaît le foot, je trouve. Et ses analyses sont toujours très, très bonnes et il s'exprime très bien. Et j'avais bien aimé l'émission.
Ouais. Et c'est fou de se dire qu'on a eu Mauro Lustrinelli, on a eu Pablo Iglesias, on a eu Stéphane Kueni, on a découvert qu'il était chanteur.
Elle était bien celle-là, elle était bien celle-là.
Ouais, très très belle émission aussi. Catherine Timéry qui nous disait déjà en automne ce qui allait se passer à la fin de la saison. Il nous avait promis une surprise en fin de saison. Pedro Noguera, Jocelyn Gourvennec, Florian Hayé, Jérémy Guimeneau, Théo Magnin, Elias Suaref, Théo Bert, Kevin Mwanga, Yannis Taffer, Alessandro Mangiarati, Blaise Berzinger, Thibaut Agoston, Max Dominguez, Barthélémy Constantin, Tim Guimain, Hugo Imsand. On est allé voir Crotchy Torti, on est allé voir Isaac Schmidt, on est allé voir Cameron Puertas chez eux. Merci évidemment à eux. Merci au club qui nous accorde la possibilité de les avoir ici, qui accordent de l'importance à match après match. Qu'est-ce qu'on vise la saison prochaine?
Zizou.
Qui on vise?
Zizou. Arsène Wenger. Lulu Favre.
Toi, t'arrives peut-être à faire venir Pep. Je ne sais pas.
Je vais essayer de l'appeler. J'ai son numéro en plus.
Ousmane, ouais. Toi, peut-être Max Dominguez, c'était un très joli souvenir.
Très
c'est toi
sympa.
Qui l'avais amené, d'ailleurs.
Ouais, c'est très sympa. Après, c'est mon pote, donc forcément un moment sympa de passer.
C'était cool, l'émission, je me souviens.
On va essayer d'aller taper haut dans les invités, là. On va leur mettre la pression.
Ouais, en tout cas, moi, j'ai déjà deux, trois petites idées. Vous m'amenez les vôtres. C'est vraiment génial. Je vous dis encore, évidemment, merci à vous. Merci aux collègues aussi, sans qui cette émission, évidemment, n'existerait pas. On se dit au revoir. On leur dit au revoir aussi à eux. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous chez vous pour vos échanges. Merci à tous les producteurs qui sont coachés par Régis Berisville. On se revoit dans pas si longtemps que ça, parce que le foot reprend très très vite en Suisse. On se voit au mois de juillet après la première journée de Super League. Très bel été à vous. À bientôt. Ciao.